Chers auditeurs, auditrices, il est l'heure de retrouver Bruno pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors, aujourd'hui, deux invités, un peu exceptionnels, c'est pas souvent, parce qu'Au pied des étoiles est le livre d'une rencontre, celle d'Edmond Baudouin et d'Emmanuel Lepage. Celle de deux auteurs dessinateurs aux univers différents, leur premier livre en commun. Au pied des étoiles est le récit d'un voyage au Chili pour découvrir les plus grands télescopes du monde. Voyage initié par un professeur de physique de Grenoble. Il souhaitait la présence d'Edmond Baudouin et d'Emmanuel Lepage pour représenter ce voyage. Il a lieu en pleine élection chilienne du président, du futur président de la République. Donc ce livre va devenir éminemment politique. Nous serons d'abord avec Edmond Baudouin à partir de 14h10 et plus tard, donc à partir de 14h30, nous serons avec Emmanuel Lepage. C'est de la musique sud-américaine, Victor Jara, Violeta Parra et Angel Parra qui seront les invités musicaux de cette émission. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez entendu, Antoine est en technique et nous écouterons successivement Victor Jara, Violeta Parra, puis Angel Parra. Avant de retrouver Edmond Baudouin, puis Emmanuel Lepage, je voudrais vous présenter Boomers de Bartolomé Segui, auteur espagnol, qui a une œuvre importante, que l'on connaît notamment avec les récits politiques qu'il a fait avec Cava, ou cette histoire de quartier avec Beltrán, ou la reprise en bande dessinée de Pepe Carvalho avec Migoyan. C'est un auteur qui a démarré en 1983 et qui a créé, par exemple, pour le magazine El Bibola, la série Lola et Ernesto. El Bibola, c'était une revue assez essentielle, puisque, à la mort de Franco, beaucoup d'auteurs ont cherché à exprimer leurs besoins de liberté, et c'est à travers cette revue, principalement, que ces espaces d'expression ont été conquis. Alors, Boomers, c'est un livre où on retrouve les personnages de Lola et Ernesto, et cette fois, Ernesto est à l'aube de la soixantaine. Et s'il s'écoutait un peu plus que les autres, il se verrait déjà un pied dans la tombe. Lui qui se réjouissait d'atteindre l'âge de sagesse se retrouve égaré, perplexe quant à son époque et incertain face à l'avenir. Le sien, mais aussi celui du monde. Alors, Ernesto est de nature songeur, il se lance dans un voyage exploratoire sur le passage du temps et sur la transmission. Alors, c'est un livre qui est dans la continuité d'un ensemble d'œuvres où les auteurs, réalisateurs, comme par exemple Ettore Scola en 1980 avec La Terrasse, s'interrogent sur le vieillir et comment voit-on le monde à travers des yeux de sexagénaire. Alors, Il y a dans cette thématique et ce traitement par Bartholomé Segui déjà ce centrage autour d'Ernesto qui va être le narrateur de ce récit. Et puis ce groupe d'amis, ils sont trois couples à échanger leurs différentes positions par rapport au monde qui les entoure. Ne serait-ce que simplement cette envie d'être plutôt dans un vieux varium que dans un EHPAD, et ce vieux varium serait un lieu collectif à domicile où on pourrait vieillir de façon plus sereine. Puis il y a cette sagesse qui est interpellée. Ils imaginaient que le monde allait s'améliorer au fur et à mesure de leur avancée en âge. Grosse désillusion. Ils ont la pression que le monde va de mal en pis et que la responsabilité, en tout cas, ils en portent une partie de cette responsabilité de cet effondrement du monde, puisque c'est le mot à la mode. Il y a tout au long du récit, les chansons qui ont accompagné Ernesto, qui sont comme des compagnons d'être, et le livre d'ailleurs va proposer la bande-son de cette bande dessinée à travers un QR code. Et quelques remarques très pertinentes, très pointues, très justes, comme par exemple une des trois femme de ce groupe à un moment dit « C'est mauvais signe quand le kiné commence à te toucher plus souvent que ton partenaire. » C'est page 47. Puis il y a la mise en scène et le dessin de Bartholomé Segui qui sont vraiment des points de narration qu'il affectionne particulièrement et dont il maîtrise grandement les codes. La mise en scène, déjà, Bartholomé Segui adopte un trois bandes. Il va tenir de façon régulière ce trois bandes qui sera avec des hauteurs de bandes d'images qui seront la même. C'est un point que je souligne très souvent, mais à chaque fois, il y a une efficacité narrative et le lecteur le ressent profondément. Cette régularité n'empêche pas qu'à des moments on peut avoir une image plus grande, mais qui va être une sorte de pause dans la lecture, un moment qui sera aussi appuyé, mais le principe de la narration est vraiment porté par cette régularité des trois bandes. Il y a également le dessin lui-même de Bartholomé Segui. Il s'adapte en fonction des projets narratifs. Il y a un dessin au trait qui a une élégance, qui va rechercher cette synthèse des mouvements, qui va donc être peu dans le détail, mais qui va vraiment être capable d'évoquer les différentes attitudes, les émotions qui vont faire sens des gestuels des différents personnages. Et puis cette mise en couleur qui est plutôt faite d'aplats, qui a un certain rythme, comme par exemple celui de la lumière, où on va avoir un rythme dans ces scènes de fin de journée, ces moments où on est en pleine lumière sur une terrasse, où on a au contraire des moments plus feutrés, plus intimistes. Puis il y a les questions de dessin que se pose toujours Bartholomé Segui, comme par exemple la représentation de la pluie. Il y a toute une scène en extérieur avec une pluie dense et Bartholomé Segui propose une représentation tout à fait convaincante. Et Les lunettes, par exemple, comment représenter un personnage qui a des lunettes, comment le faire en gros plan, comment représenter les verres et la façon dont ils peuvent prendre la lumière en gardant cette présence du regard. Là aussi, une solution pertinente. C'est vraiment un livre qui est presque un moment c'est vraiment un livre qui va, sur tout le récit, montrer comment on peut faire un livre de dialogue, de rencontre, d'échange, où ce n'est pas l'intrigue qui va primer, mais c'est vraiment ce souci de montrer comment les anciens s'interrogent sur la transmission du monde qu'ils font à leurs enfants, et c'est une interrogation profonde qui habite en tout cas les personnages de ce récit Boomers de Bartholomé Segui. Il est publié par les éditions de la Boîte à Bulles. C'est un récit de 96 pages. Son prix est de 20 euros.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, que no es guitarra de rico.
Depuis plus de 40 ans, Edmond Baudouin se raconte dans ses bandes dessinées. Il écrit l'extérieur et l'intérieur du monde et de son monde. Pour lui, le dessin est une musique qu'il décrit dans un livre, La musique du dessin. Ces livres sont traversés par des questions de dessin communes parfois avec celles d'Emmanuel Lepage. Leur question sur le choix de la représentation en est une. Au pied des étoiles est un récit intimiste, choral, profondément humain. Les deux univers graphiques se rencontrent, se découvrent, se cherchent, se mêlent. Le récit va bien au-delà de l'accompagnement d'un voyage proposé par un enseignant. Le rapprochement des deux auteurs est tout entier dans leur dialogue graphique, tant sont intimement mêlées leur écriture dessinée. Nous sommes dans la beauté indicible du dessin. Nous sommes avec Edmond Baudouin en direct et nous le retrouvons pour qu'il nous emmène au pied des étoiles. Bonjour Edmond Baudouin.
Bonjour Bruno.
Alors, comment, quelle a été votre réaction, votre émotion quand s'est concrétisé ce projet de voyage avec Emmanuel Lepage ?
Ah là là, oui. C'était mon dessin et son dessin, les différences d'approche et en même temps non pas l'application, mais vouloir exprimer avec des traits, avec des couleurs, avec des pinceaux, avec des crayons, et dire au plus près ce que l'on ressent, c'est quelque chose que cherche Emmanuel et c'est quelque chose que je cherche aussi. On nous a mis ensemble et tous les deux, on a marché avec ce questionnement. C'était un rêve que j'avais, moi, il y a longtemps, avec un dessinateur qui est mort, jeune, qui s'appelait Michel Crestin, de mettre son travail à lui en, non pas en miroir, mais en musique avec mes dessins. Ça n'a pas pu se faire avec ce montagnard magnifique, ça a pu se faire avec ce marin magnifique. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. Donc, je rêvais de travailler avec quelqu'un qui est tellement éloigné, qui a l'air tellement éloigné de ce que je fais, et qu'en vérité, nous cherchons la même chose. Voilà. C'était un bonheur.
Edmond Baudouin, comme Michel Crespin, le dessin d'Emmanuel Lepage, une recherche d'une représentation exacte, un peu juste. Son aquarelle est tout à fait personnelle. Il a des exigences de dessin. Est-ce que c'est ce voyage qui a vraiment mis ensemble vos dessins et qui vous a amené bien au-delà de ce simple voyage géographique?
Oui, oui. Évidemment, quelqu'un comme Emmanuel Lepage, c'est quelqu'un qui, ce qu'il voit, ce qu'il regarde, ce qui est devant lui, il a un respect absolu avec cela. Et il veut le déposer sur le papier. J'ai une démarche tellement différente. Ce que je vois, je le fais entrer en moi, ça devient je, J-E, et c'est J-E que je mets sur le papier. C'est pas que je n'ai pas de respect, mais je cherche à mettre ce qui est derrière l'écorce, il met ce qui est sur l'écorce. Et ce travail à deux, et ça devient complémentaire. Ce n'est pas quelque chose qui s'oppose, c'est quelque chose qui est complémentaire. Et c'est en cela que je crois on a fait ensemble quelque chose de fort. Voilà. Le devant et l'intériorité. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que Emmanuel n'est pas dans l'intériorité, mais son respect est de montrer ce qui est devant ses yeux. Moi, je montre ce qui est derrière les miens.
Edmond Baudouin, le fait que vous vous trouviez au Chili ensemble au moment des élections présidentielles a donné une dimension très politique à ce voyage. Comment ça s'est traduit dans le dessin et dans ces moments communs avec Emmanuel Lepage ?
C'est vrai que vivre des moments intenses comme cela, où on est au milieu d'une foule exubérante et en bonheur et en chant et en danse, comment le représenter, comment le dire? Nous avons chacun de nous deux mis ce que nous pouvions, parce que c'est toujours que ce que l'on peut quand on met sur le papier. On est devant quelque chose qui nous dépasse, mais tout nous dépasse, même une fleur, une petite fleur nous dépasse. Comment aller là, hein? Mais là, cette foule de millions de personnes, et Il en tombe les bras, mais quand on veut faire un livre, on ne peut pas laisser tomber les bras. Il faut qu'on prenne les pinceaux et les crayons. Comment dire là? Eh bien là, on a fait ce qu'on a pu. On a dansé, on a ri, on a chanté le bonheur avec les autres. Et puis, on a essayé, mais avec nos pauvres moyens, parce que c'est toujours des pauvres moyens que les êtres humains ont. On les a mêlés ensemble et on a fait des dessins ensemble. Et là, c'est vrai qu'il y a une page très importante qui dit tout ce qu'il y a dans le livre. Il y a une page où on dessine chacun une case. Et je dessine Emmanuel dans la foule, il me dessine dans la foule. Parce que il faut pas se perdre de vue, parce qu'on est au milieu de la foule, on se donne pas la main, bien sûr, mais il faut pas se perdre, parce que lui a l'adresse et l'autre a les clés. Et voilà, et on peut pas, si on se perd, c'est le livre, c'est la métaphore du livre. Il faut se regarder tout le temps, quand on a fait ce livre, tout le temps où on est, tout le temps où l'autre est, pour pouvoir ne pas se perdre et être ensemble. Là, c'est dans la foule, mais dans la représentation de ce que nous avons voulu dire de cette fête, mais de tout le reste du livre, elle est contenue dans cette page. On se cherche, on se regarde, on fait attention à l'autre pour voir où il est, pour voir de ne pas se perdre, pour être ensemble, oui, voilà.
Edmond Baudouin, cette intimité graphique, ça a permis de répondre à quelles questions de dessin, ou est-ce qu'il y a eu de nouvelles questions de dessin qui sont apparues après votre rencontre graphique ?
Bien sûr. On est toujours des étudiants, on est toujours des apprentis quand on sait le métier que l'on sait. On sait même qu'on ne va pas trouver. Hein, le Graal, ça n'existe pas là. On marche. Là, on a marché ensemble. Et marcher ensemble quelque part, eh bien, ça a été échangé, ça a été mêlé. Il y a beaucoup de pages où nous sommes tous les deux à dessiner. Quelquefois, ça se voit pas même. Mais nous sommes tous les deux. Il y a une page, par exemple, où je dessine la maladie, parce qu'il y a eu aussi la maladie d'Emmanuel dans cette histoire. Et je dessine la maladie et on voit pas que c'est lui qui a fait les vagues. Moi, j'ai fait des personnages moitié homme, moitié cheval qui se battent. C'est la maladie d'Emmanuel. Et je lui ai demandé de faire la vague. Eh bien, ça, c'est une chose que je ne crois pas que le lecteur va deviner qu'on est tous les deux à dessiner là-dessus. Et pourtant, on est tous les deux.
Il y a une partie du voyage, puisqu'il s'est fait en deux temps. Dans le deuxième temps, vous n'y étiez pas présent.
Oui.
Comment avez-vous travaillé avec Emmanuel ? Parce que dans le livre, il y a toujours la présence de vos dessins faits en France. Est-ce qu'il y a eu un moment de relecture commun ? Comment s'est passé ce travail de continuité dans le livre ?
Aujourd'hui, il existe bien sûr les téléphones portables, on peut s'appeler de l'autre côté du monde même. Donc je recevais des photos, je recevais des images, je recevais des textes. Et puis, dans la deuxième partie, eh bien Emmanuel a tenu dans ses mains, il a été quand même, pour une grande part, le maître d'œuvre de ce qui s'est passé. J'étais, non pas à ses ordres, moi j'étais à Paris, où j'étais dans mon village, où j'étais avec mes petits-enfants, et je dessine, bon, voilà, eux ils sont très hauts dans la montagne, ils sont dans les Andes, Et moi, je suis devant ma théière ou mon café. Et il y a cette dichotomie, il y a cette immense différence, cette distance géographique. Il y a tout cela, cette distance avec les heures, les temps de vie, les jours. Et c'est quand même là, effectivement, Emmanuel qui a été, pour une part, celui qui était le metteur en scène des pages là, dans cette deuxième partie. C'est vrai qu'il a eu beaucoup plus de responsabilités. Je lui donnais, moi, des pages que je faisais. Mais ça, on l'a fait quand il est revenu en France, bien sûr. Bien sûr, c'est quand il est revenu en France. Mais c'est quand même lui qui tenait les pages, l'ensemble. Surtout qu'il y a quelque chose de différent aussi dans notre travail. C'est que moi, je travaille très vite. Je fais 2, 3, 4 pages par jour. Lui, dans ce temps-là, il faut 15 jours, 10 jours. C'est magnifique aussi. C'est bien de travailler avec cette différence dans le temps. Mais ça veut dire que on revient constamment sur ce qu'on a fait. Parce que lui, eh bien, c'est dans un autre temps. Et moi, eh bien, je ne vais pas dans son temps. Je fais toujours les pages aussi vite. Mais, eh bien, je les recommence 10 fois. Voilà. Ouais. Ce n'est pas un problème pour moi de recommencer constamment. Et on a travaillé comme ça. Voilà. On pourrait faire un livre sur la manière dont nous avons travaillé.
Edmond Baudouin, c'est un livre sur la transmission aussi entre vous et Emmanuel. Bon, il y a 25 ans d'écart. Qu'est-ce que vous souhaitez lui transmettre à Emmanuel?
Ah, il attendait. Oui. Il y a cette question. Oui, mais moi j'ai pris beaucoup d'Emmanuel aussi, bien sûr. Quand je suis assis à côté de lui qui fait ses aquarelles là en direct, ben, je m'arrête de dessiner, je regarde comment il fait. Mais il s'arrête quelquefois de dessiner pour voir ce que je fais. On apprend tous les deux là dans quelque chose comme cela. Le passage se fait dans les deux sens. Mais c'est vrai que lui attendait beaucoup aussi d'une libération de sa main avec paraît-il, la liberté que j'ai. Bon. Comment dire cela?
C'est bien dit. Merci beaucoup, Edmond Baudouin. On va écouter un peu de musique et puis nous allons discuter avec Emmanuel Lepage.
Oui,
et donc,
je sais. Et
comme
bien.
ça, on aura vraiment vos deviner. Merci, Edmond Baudouin. À très bientôt. Et bonne séance de dédicace puisque vous allez faire à Grenoble la première séance de dédicace.
Oui. Bah, merci beaucoup, Bruno.
À bientôt.
À bientôt.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón.
L'œuvre d'Emmanuel Lepage s'est construite avec des récits et des personnages de fiction. Il se met en scène pour raconter ses voyages où il est dans une écriture encore documentaire qu'il confronte avec ses questions de dessin et l'intimité. Après Cache-cache bâton, plus intimiste, Au pied des étoiles est la rencontre humaine et dessinée avec Edmond Baudouin. Edmond écrit sur comment vieillir, questionne le corps, le geste du dessinateur, la liberté. Emmanuel Lepage raconte la maladie, la représente, s'engage sur l'écriture de l'intimité, sur une quête de liberté, et c'est la force déjà, dès les premières pages, de cette rencontre dessinée. Nous sommes avec Emmanuel Lepage pour qu'il nous guide lui aussi au pied des étoiles. Bonjour Emmanuel Lepage.
Bonjour Bruno.
Alors, comment avez-vous, quelle émotion avez-vous eue lorsque vous avez su que se concrétisait ce voyage au Chili avec Edmond Baudouin?
C'est évidemment extraordinaire. En fait, la perspective de pouvoir faire un livre avec Edmond était inouïe. C'était magnifique. On se connaît depuis très longtemps, mais c'est vraiment ce projet qui nous laisse l'opportunité de travailler ensemble, sachant qu'on avait on a des chemins différents en fait dans la bande dessinée. Et c'était l'occasion de confronter nos chemins pour aller ailleurs, de toute façon. Et puis pour moi, évidemment, ça a été l'approfondissement d'une amitié déjà ancienne.
Est-ce qu'il y avait des attendus avant ce voyage? Est-ce que vous imaginiez des situations? Comment ça s'est passé, Emmanuel Lepage?
En fait, quand je pars en voyage, en fait, je n'ai pas particulièrement d'idée de ce qui va se passer. Au contraire, j'essaie d'être le plus vierge possible. Je lis assez peu, en fait, avant un voyage sur les lieux où je vais arriver, vraiment pour être dans l'esprit de la découverte. Donc je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, et sur place et dans dans la collaboration, mais j'étais quand même plutôt confiant. Ce qui est important, voilà, dans un livre comme dans un voyage, pour moi, c'est le chemin qui compte. Je ne sais pas par où on va passer, je ne sais pas qui nous allons rencontrer. Je ne sais pas quelle voie va prendre le voyage ni le récit, mais c'est ça en fait que je trouve extrêmement excitant. Si un voyage était déjà prévu à l'avance, je m'interroge sur la raison de partir. Donc là, un livre, c'est un petit peu pareil. Je ne sais pas où on va, mais je devine qu'il y a quelque chose à la fin. C'est très étrange, en fait. C'est pas un livre à inventer, mais c'est comme si c'était plutôt un livre à chercher, à trouver. Et je pense que Edmond est un petit peu dans cette même idée. Il sait que le livre viendra de notre rencontre, de la confrontation, de ce que l'on va découvrir. Et c'est ça, en fait, qui est beau. Moi, qui me plaît, et dans le voyage, et dans la bande dessinée aujourd'hui.
Vous évoquez dans le livre, Emmanuel Lepage, ces questions sur la représentation, puisque vous n'avez pas la même approche du dessin. Comment se sont passés ces moments de dessin pendant le voyage? Est-ce qu'il y avait des dessins en commun? Comment avez-vous travaillé?
Alors, Edmond est quelqu'un qui a une puissance de travail absolument extraordinaire et qui fait ses pages de bande dessinée dans le temps du voyage, au format, quasiment sans crayon. Alors il fait un petit croquis en amont, puis ensuite il part. S'il se trompe, il recommence, c'est pas tellement important. Enfin, et donc moi je voyais ces pages se faire au gré des moments que l'on passait ensemble, des rencontres que nous avions faites, des émotions qu'il avait pu avoir. Moi j'essayais de mon côté de réfléchir à un récit, de faire un petit peu les ponts entre ces différentes pages, faire quelque chose de cohérent. Donc pendant qu'Edmond faisait des pages, et moi je faisais la structure du récit, et imaginant mes pages à venir. Parallèlement à ça, je faisais aussi pas mal de croquis, croquis qu'on faisait souvent ensemble d'ailleurs, hein, sur le terrain. Ça, c'est une chose que je fais fréquemment en voyage. Par contre, faire des pages, mais plus difficiles, donc celles réalisées au cours du voyage étaient plutôt sous forme de croquis, de sud dialogué, de storyboard. Et nous en discutions toujours avec Edmond. Parfois, je lui disais, bah, tiens, ce serait peut-être bien de faire une page là-dessus, faire une page sur cela, pour donner plus de fluidité et de cohérence au récit. Et puis, il y a quelques dessins sur place, en fait, que nous avons fait ensemble. Je pense en particulier à un dessin qui représente le désert dans la vallée de l'Elqui, où j'ai fait le trait au noir et blanc, au pinceau, et lui a fait le ciel en couleur, façon un petit peu Van Gogh. Donc ça, c'est vraiment un des dessins qui a été fait sur place. Ensuite, une fois rentré, donc là, j'ai commencé les pages, et de temps en temps, en fait, je proposais des pages à Edmond, ou des images. Parfois, on a même fait des pages ici, en fait, chez moi, en Bretagne, où on était l'un et l'autre sur la même feuille. Enfin, disons qu'il y a plein de façons, en fait, de collaborer ensemble. C'est ça aussi qui était très très excitant. On a essayé d'inventer d'autres façons d'être ensemble, cette fois par le dessin.
Alors, il y a une partie, le deuxième voyage, cette fois scolaire, où Edmond n'est pas présent. Comment avez-vous vécu ce moment-là, Emmanuel Lepage?
Bon, évidemment, je regrettais qu'Edmond ne soit pas là. L'idée de base était qu'il voyage avec moi et avec les étudiants au tout début du projet. Bon, ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons, en particulier familiales pour Edmond. Donc, on a essayé, donc après mon voyage avec les jeunes, d'imaginer une autre façon de faire, de manière à ce que Edmond soit néanmoins présent dans cette deuxième partie. Je lui ai raconté mon voyage, je lui ai raconté ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert de ces jeunes gens, de ce pays, du désert d'Atacama, des étoiles. Et je lui ai proposé en fait une trame de récit, les thématiques que je voulais aborder. Et sur cette trame, Edmond a imaginé des pages, imaginé ce qu'il vivait pendant que nous étions dans le désert, quelques séquences sur ce que lui évoquaient les thématiques que nous avions abordées avec les jeunes. Mais au cours même de la réalisation, lorsque je me suis attelé aux pages de cette deuxième partie, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu reviennes en fait dans cette histoire. Et on a imaginé en fait nous dialoguant dans le désert sous forme de fantômes. On a appelé ça les pages aux ectoplasmes d'ailleurs. De retisser en fait un échange autrement.
Alors, vous étiez avec Edmond au Brésil, au Chili, pendant les élections présidentielles. Donc, il y a une dimension politique qui s'est invitée dans votre voyage et dans votre écriture dessinée. Comment avez-vous vécu ce moment de votre côté, Emmanuel Lepage?
C'était extraordinaire. on était là un peu plus d'une quinzaine de jours avant l'élection. Donc on sentait en fait l'effervescence, la tension. Vous savez, le Chili est vraiment un pays coupé en deux. La mémoire des victimes de la dictature n'est évidemment pas celle de ceux qui étaient plutôt privilégiés en fait par cette situation politique et économique. Donc ce sont deux mémoires assez irréconciliables et qui se traduit encore dans cette élection, qui était couplée de l'adoption d'une nouvelle constitution, une constitution en rupture avec celle qu'avait établie le régime Pinochet au début des années 80. Et donc il y avait une dimension historique très forte, politique évidemment. Et donc on a suivi en fait au gré des rencontres de la famille de José, donc l'enseignant avec qui nous sommes partis, que le pays était extrêmement clivé. Dans sa famille, il y avait à la fois des gens qui étaient pour le candidat de gauche, comme d'autres qui étaient pour le candidat d'extrême droite. Donc on a rencontré les deux bords. Et puis voilà, l'un et l'autre, avec Edmond, on va être sur la place de la dignité quelques heures avant le résultat des élections. Et on va sentir petit à petit la tension monter. Puis à ce moment donné, il y a une explosion de joie. Boric est élu. Et on va entendre, va être entonné le chant des Guidapayun, El pueblo unido jamás será vencido. Et quand vous avez 2000 personnes qui entonnent ce chant, je peux vous dire que vous avez la chair de poule. Et encore aujourd'hui, en vous le disant, j'ai la chair de poule tellement c'était extraordinaire. Et de quelques centaines au début, on est devenu des milliers, des centaines de milliers. Et on était là, on était portés par cette foule. Et voilà, comme le dit Edmond, à un moment donné, on était au bon endroit, au bon moment. C'était un moment merveilleux d'espoir, en fait, et d'humanité aussi. Voilà, on y croyait.
Le livre peut apparaître comme un livre sur la transmission entre Edmond et vous. On a le sentiment que votre écriture se fait plus intimiste au fur et à mesure de l'ouvrage.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous ressentez cette transmission, Emmanuel Lepage?
Oui, je pense en fait ce livre, j'ai senti tout de suite qu'on allait partir dans quelque chose de très intime. Bon, déjà travailler avec Edmond qui lui depuis des années, enfin des décennies, a construit en fait son travail autour de l'intime, hein, de ses rencontres, de ses parents, de ses amours. Donc il est dans cette réflexion. Donc de travailler avec lui était aussi une invitation moi-même à travailler là-dessus, comme il le dit, je m'expose pour que les autres se dévoilent. Et je me suis dévoilé effectivement dans ce livre, parce que je crois que c'était nécessaire. Il a été réalisé à un moment où moi je sortais d'une très grave maladie. Je pense que ça a modifié profondément ma perception des choses, de façon peut-être assez inconsciente au début. Et je crois que le livre est toujours pour moi une façon de voir plus clair. Le livre est un espace où on ne peut pas mentir, on ne peut pas se mentir. Et je me suis, je pense, servi aussi de ce livre pour dire ma vérité, en fait, d'une certaine manière.
Comment va ouvrir l'horizon au pied des étoiles pour vos livres à venir, Emmanuel Lepage?
Vous savez, je pense que je pense que ma façon en fait d'aborder la bande dessinée se modifie au gré du temps. Je vis ma façon de raconter, de dessiner des histoires comme une forme de quête, en fait, je pense. Je sais pas si le mot est le plus juste, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois, en fait. Je pense que c'est une façon de comprendre. Je pense aussi de témoigner, en fait, du monde, de raconter aussi les personnes que je rencontre au gré du chemin. Ce sont des personnages qui me touchent, dont le parcours, la personnalité, leur propre quête m'interrogent. Voilà, j'ai envie de d'en témoigner, je crois. Je pense dans un monde qui comme le nôtre, part quand même pas mal en cacahuète, et on a quand même peu d'espace pour espérer ou se réjouir ou d'avoir un peu d'espoir. Je pense que de raconter en fait ces gens qui essayent d'aborder la vie autrement, qui ont envie de non pas de subir, mais de construire des choses, de faire, j'ai envie de leur donner aussi un espace. J'ai envie qu'ils soient vus aussi, parce que ces gens-là existent. Dans mon livre précédent, Cache-cache bâton, je raconte une histoire d'habitat partagé, en fait de communauté, et je raconte ces gens qui aujourd'hui essayent d'imaginer d'autres façons de vivre ensemble. Et à chaque fois que je les rencontre, moi je suis enthousiaste, ça me réjouit, je me dis ah c'est bien, il y a des gens comme ça qui existent, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire partager, voilà. Pour moi, désespéré du monde, on va dire.
Emmanuel Lepage, est-ce que ce livre a permis de répondre à vos questions de dessin, ou est-ce que ça en a fait naître de nouvelles?
Je pense pas que ça réponde à mes questions de dessin, particulièrement ce livre. En fait, je pense que le dessin, c'est toujours une aventure. J'ai souvent cette impression, quand je recommence un nouveau livre, de ne rien savoir, de devoir tout réapprendre. C'est épuisant, ça me décourage parfois. Il y a des choses que je ne sais plus faire, ou que j'ai plus envie de faire, peut-être en dessin. Mais il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et je pense que de travailler avec Edmond, qui a acquis une liberté inouïe dans son travail de dessin, une grâce incroyable, je me dis que ça me donne une direction. Quand je le vois dessiner, ça m'émerveille. Et je me dis qu'il a acquis une liberté de dessin que je lui envie vraiment. Et voilà, bon, ça me donne des pistes et, enfin, en tout cas, une direction, en tout cas. Et j'aimerais avoir cette grâce.
Merci beaucoup, Emmanuel Lepage. Je vais rappeler les références donc de votre livre fait avec Edmond Baudouin. Donc, Au pied des étoiles, c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 246 pages de ce livre sont au prix de 28 € et le livre a été imprimé en France. Et très bonne continuation pour votre les prochains livres et les prochaines questions de dessin. Au revoir.
Merci, Bruno. Au revoir.
La palabra cobra vida cuando entramos a la mar. La misma barcaza que antes nos privó de libertad hace el camino de vuelta. A Iquique nos llevará. En el destierro lejano quemaba una interrogante. ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. ¿Cómo es la libertad? No puedo el rostro encontrarle. La libertad eres tú, son tus ojos y tu pelo. Es la leche de los niños, es la bandera del pueblo. Es buenos días, señora, es el tranvía o el cerro. Es el canto esperanzado, es Neruda en el desvelo. Es el aire, son las flores. Es el viaje de regreso, es el marinero errante, o el que se quedó en Quintero. Es la noche y es el vino, es el mantel recién puesto, es el hombre trabajador.
trabajando en la fábrica o en el puerto. Es la esencia de los libros, es el silbido del viento, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto, es no poder decir nunca que la libertad ha muerto.
De Angel Parra, un très, très beau disque que je ne peux que vous conseiller. Nous avons écouté aussi Victor Jara et Violeta Parra, la sœur. De la sœur ou la mère, je ne sais plus. Oui, sa mère. Sa sœur, c'est Isabella. Ou inversement. Bon, on ne sait pas. J'ai zappé ça. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. On va se retrouver jeudi prochain pour une rencontre avec une scénariste. Il s'agit de Kitiero Simone. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade et merci Antoine pour cette technique. À très bientôt.
Écriture dessinée.